Canadienne reçoit André Berne, vice-président du CREPAN, le comité régional d'études pour la protection et l'aménagement de la nature en Normandie, et avocat au barreau de Paris. Bonjour.
Bonjour madame.
Le 1er novembre 2024, une proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur a été déposée par les sénateurs Laurent Duplomb et Franck Menonville. Cette loi, connue sous le nom de loi Duplomb, fait énormément débat et pour beaucoup, elle rejoint une longue liste de lois et propositions de loi qui détricotent le droit de l'environnement. On aura évidemment l'occasion d'y revenir. Mais d'abord, concernant cette loi Duplomb, samedi dernier, un nouveau rassemblement a eu lieu à Caen à l'initiative de la Confédération Paysanne. Et à partir d'aujourd'hui, elle est examinée en commission mixte paritaire. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle pose autant de problèmes ?
Cette loi pose problème parce qu'elle introduit des régressions environnementales majeures et dangereuses. L'un des sujets centraux dont on a beaucoup parlé, c'est la réintroduction des néonicotinoïdes. Ce sont, d'un néonicotinoïde particulier, ce sont des molécules insecticides. Qui sont très efficaces, notamment sur les betteraves, mais leur efficacité est à raison de leur toxicité. On les appelle souvent les tueuses d'abeilles parce qu'il faut quelques nanogrammes. Un nanogramme, c'est un milliardième de gramme pour tuer une abeille. Ça ne tue pas que les abeilles, ça empoisonne aussi tout le milieu naturel. Et in fine, ça peut aussi avoir des effets sur l'homme qui va consommer et qui va donc recevoir dans son corps ces produits toxiques. Alors, il faut savoir que ces produits avaient été interdits et donc la PPL, donc la proposition de loi Duplomb, réintroduit ce produit, ou en tout cas la possibilité de pouvoir l'utiliser. Donc ça fait beaucoup de bruit, mais il y a d'autres sujets problématiques, par exemple dans le domaine de ce qu'on appelle les bassines agricoles, c'est-à-dire ces grandes réserves de substitution, on va faciliter leur implantation. Alors, ça a été proposé par le sénateur Duplomb. Ensuite, il y a eu un petit coup de jarnac là, sur le plan, je dirais, du fonctionnement de l'Assemblée. Ça passe aujourd'hui en commission mixte paritaire et les gens doivent savoir que cette commission mixte paritaire est majoritairement composée de gens qui sont soit agriculteurs, donc ils sont élus, mais ils sont sénateurs ou députés, agriculteurs, soit ont des relations avec le monde agricole, la FNSEA, etc. Et il y a donc l'ancien ministre de l'Agriculture qui s'était illustré pour ses positions très anti-environnementales. Voilà, donc si ça passe, alors ensuite, c'est pas la commission qui décide, elle propose, mais ensuite, donc si ça passe tel quel, si voté tel quel, donc à l'Assemblée et au Sénat, ça va être une catastrophe totale pour l'environnement, pour la santé.
Alors justement, certains agriculteurs eux-mêmes dénoncent donc cette fausse simplification, alors qu'elle est présentée comme étant pour simplifier justement la vie des agriculteurs. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe ?
Ce paradoxe, il s'explique par le fait qu'il y a, et c'est pas que dans le domaine agricole, c'est aussi vrai dans le domaine industriel, un fort retour de bâton contre les normes environnementales qui sont jugées comme étant trop contraignantes. D'où le nom de loi de simplification. Depuis 15 ans, il y a eu 10 lois de simplification. Et en fait, c'est essentiellement des lois de simplification, des normes. Et parmi les normes environnementales qui sont jugées comme trop contraignantes. Donc le paradoxe total, c'est que le climat, on le voit aujourd'hui, est en train de s'échauffer plus vite que prévu. La biodiversité est en chute vertigineuse. Et nonobstant cela, donc on propose des lois qui sont toutes et de plus en plus, je dirais, problématiques sur l'environnement. Et ça date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est un phénomène qui date de déjà plusieurs années. Donc là, j'ai noté sur mon papier, il y a déjà 5 lois récentes qui sont très problématiques sur le plan de l'environnement. Il y a des lois anciennes de l'année dernière, par exemple, il y a eu la loi APER qui pose des problèmes majeurs en termes d'environnement. Voilà, donc c'est l'une des contradictions de la politique.
Justement, vous parlez d'autres lois. Il y a un autre projet de loi qui, lui, a été adopté le 17 juin dernier. C'est la loi de simplification de la vie économique qui acte, entre autres, la suppression des zones à faible émission, la suspension de MaPrimeRénov' et l'assouplissement des règles sur l'artificialisation des sols. Oui. Cette loi, elle a été caractérisée par beaucoup comme une loi fourre-tout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste cette loi et pourquoi est-ce qu'elle est aussi problématique?
Les lois fourre-tout, il y en a beaucoup. Hein. C'est-à-dire que soit des lois ont des objets précis, par exemple la loi d'orientation agricole, on pourra peut-être en parler parce que là c'est une loi qui a aussi a été votée et qui est très problématique sur le plan de la protection des espèces protégées. cette loi de simplification, c'est qu'on va chercher dans tous les domaines des sujets de simplification administrative, mais qui sont en réalité souvent des simplifications. Alors, vous en avez cité quelques-unes. Qui sont majeurs, hein, les ZFE. Donc, là aussi, contradiction, hein, c'est-à-dire que à la fois, on a des objectifs de diminution de, qu'on a proposé d'ailleurs, sur lesquels on s'est engagé sur le plan européen, des gaz à effet de serre, mais en même temps, donc, l'un des instruments, ça peut être les ZFE, mais cet instrument-là, on le casse. On a des objectifs d'éviter un accroissement trop important de l'urbanisation pour protéger la biodiversité, et là aussi, on le casse, c'était le ZAN. Et puis, il y a d'autres sujets. Par exemple, il y a eu... alors, ces points ont été introduits par des amendements. Mais dès le départ, il y avait des sujets très problématiques. Par exemple, il y avait le sujet de la réduction du droit des associations pour rester en justice dans le domaine de l'urbanisme. C'est quelque chose qui est assez souterrain, qui est passé inaperçu. Un autre texte qui est passé inaperçu, c'est l'augmentation de la qualification de certains projets de projets d'intérêt national majeur. Alors, lorsqu'un projet est d'intérêt national majeur, il y a deux dérogations qui s'appliquent. La première dérogation sur la destruction des espèces protégées, j'y reviendrai un peu, c'est hyper technique, mais c'est très sournois, justement parce que c'est hyper technique, donc les journaux n'en parlent pas, c'est trop compliqué. Et puis, ces projets d'intérêt national majeur échappent aussi à l'évaluation environnementale. C'est-à-dire qu'on va créer une grosse usine, et on ne va pas faire d'évaluation environnementale pour savoir si ça ne détruit pas les espèces, si ça ne pollue pas l'eau ou l'air, etc. Ça, c'est absolument, je dirais, catastrophique et même scandaleux.
Et donc, j'évoquais tout à l'heure l'assouplissement des règles sur l'artificialisation des sols. Et cet assouplissement des règles s'inscrit dans un article qui concerne les data centers. En Normandie, on en compte déjà 12 et deux data centers consacrés à l'intelligence artificielle ont été annoncés par le gouvernement en février 2025. Donc notre région, elle est directement concernée par ce cas précis.
Oui, et pas que ce cas précis. Hein. Les centrales nucléaires vont échapper aussi aux ans et donc on va construire deux EPR nouveaux. Voilà, donc il pose aussi d'autres problèmes. Les EPR, c'est le cas de le dire, la loi donc nucléaire les a aussi dispensés d'évaluation environnementale, les a aussi dispensés des règles de protection des espèces protégées. Voilà, donc c'est quelque chose qui se rajoute. Alors je ne parle pas évidemment des dangers et de la problématique des centrales nucléaires et de l'augmentation majeure que ça aura en termes de coût de l'électricité, puisque le chiffre indiqué actuellement pour les 6 EPR, c'est 100 milliards d'euros. Et c'est la Cour des comptes qui le dit, hein, c'est pas moi. Hein. Et la Cour des comptes, c'est pas des écolos. Hein. Voilà.
Et donc on entend beaucoup parler de détricotage du droit environnemental. Qu'est-ce que signifie cette notion de détricotage qu'on entend beaucoup, qui a même été reprise par Macron?
Ben, le détricotage, c'est que les lois environnementales, c'était un tissu de règles, de normes qui avaient pour vocation de protéger l'environnement. Et ce tissu est en train de se détricoter. Je peux prendre l'exemple, si vous voulez, de la loi d'orientation agricole, que la destruction des espèces protégées, avant cette loi, était pénalisée fortement, avec de la prison, des amendes, pour toute personne qui détruisait les espèces protégées. Et cette loi d'orientation agricole a introduit la notion que ces pénalités ne s'appliqueront que soit sur des destructions intentionnelles, soit sur des négligences majeures. Or, la destruction intentionnelle, personne ne détruit volontairement des espèces protégées pour le plaisir. Alors, peut-être des quelques braconniers pervers, je ne sais pas. Mais en général, les destructions sont le fait de négligence. Alors, elles étaient pénalisées. Maintenant, il faut que la négligence soit vraiment énorme pour que ces destructions soient pénalisées. Donc ça enlève tout un pan du régime répressif. Et s'il n'y a plus de régime répressif, l'interdiction devient théorique. Alors, pour les destructions sur des négligences modérées, la loi a quand même prévu quelque chose. Et tenez-vous bien, c'est une amende qui sera émise uniquement par l'administration, qui sort au maximum de 450 euros et que l'administration pourra transformer en stage. Donc, un agriculteur ou une personne qui va sciemment, par exemple, détruire une haie dans laquelle elle sait qu'il y a des espèces protégées, c'est pas considéré comme une négligence majeure, mais il le sait quand même. Alors, il ne détruit pas les espèces protégées pour le plaisir, mais il détruit la haie parce qu'il veut le faire au printemps, par exemple, quand les oiseaux nichent. Celui-là, on va lui dire, vous allez faire un petit stage de citoyenneté, c'est bon. Voilà, donc un exemple parmi tant d'autres d'une régression majeure. Et d'ailleurs, ce régime de protection des espèces protégées est largement attaqué sur des, dans d'autres domaines. Par exemple, la loi APER, accélération de la production des énergies renouvelables, a introduit ce qu'on appelle une présomption de raison impérative d'intérêt public majeur. C'est-à-dire que les espèces sont protégées, sauf dans le cas où l'administration autorise leur destruction. Et pour cela, il est nécessaire que l'on démontre que le projet qui aboutit à ces destructions est d'intérêt public majeur de manière impérative. La raison d'intérêt public majeur, la raison impérative d'intérêt public majeur. Or, la loi APER donne une présomption pour cette raison. Une présomption, ça veut dire que, qui plus est, irréfragable, donc on ne peut pas démontrer le contraire. Ça veut dire que tous ces projets qui rentrent dans cette catégorie, par exemple les microcentrales de plus de 1 MW ou les, d'autres projets, c'est pareil pour le nucléaire d'ailleurs, eh bien, ils sont a priori considérés comme d'intérêt public majeur et donc a priori, on peut donner une autorisation de destruction d'espèces protégées sans autre forme de procès. Voilà, donc les espèces protégées actuellement en France sont quasiment plus protégées du tout. Il faut vraiment les détruire volontairement ou vraiment faire un truc absolument énorme. Mais pour tout le reste, voilà. Alors même que ces espèces sont pour la plupart en grand danger, sont extrêmement vulnérables en voie de disparition. Voilà.
Et donc vous avez cité un certain nombre de lois et de projets de loi qui viennent détricoter ce droit de l'environnement. Est-ce que c'est un phénomène qu'on observe depuis longtemps, ce détricotage progressif ?
Oui, c'est un enfin depuis longtemps, c'est un phénomène qu'on observe depuis, je dirais, 5-10 ans. Sous la pression des intérêts des lobbies, si je peux dire, le lobby industriel, le lobby agricole, l'histoire du plomb, là, c'est à la fois le lobby agricole et aussi le lobby industriel, parce que la betterave sucrière, c'est surtout utilisé pour ça, c'est l'industrie du sucre, c'est toute l'industrie agroalimentaire qui utilise. Donc, et puis c'est aussi l'idée qu'on nous dit toujours, mais si nous on est plus vertueux que des étrangers, ce qui n'est pas faux, ça va détruire l'industrie française, donc on va faire des importations, il y a tous, donc détruire l'économie, il y a tous cette idée. Mais bon, maintenant il faut aussi faire un choix, quoi.
Et on entend beaucoup parler du fait que ça s'accélère, ce détricotage. Comment expliquer qu'aujourd'hui, ça s'accélère d'un coup comme ça ?
Là, c'est de la politique plus générale, mais je pourrais dire que comme il n'y a plus de majorité à l'Assemblée, le gouvernement produit de moins en moins de projets de loi, puisqu'il n'est pas certain que ça soit voté, et donc il y a de plus en plus de propositions de loi, de propositions parlementaires, et un certain nombre d'élus, notamment au Sénat, qui sont sensibles à ces lobbies. Et il y a beaucoup de groupes parlementaires, donc ils ont droit à proposer, il y a toute une règle, je ne vais pas entrer dans le détail, mais ils ont droit de faire des propositions plus nombreuses qu'avant. Donc il y a le lobby des agriculteurs, c'est la loi du plomb, il y a le lobby des industriels, voilà. Et toutes ces personnes, tous ces élus sont sensibles, et d'où on a effectivement cette accélération de textes un peu bizarres ou néfastes. C'est pas d'ailleurs le seul domaine, il y a aussi les domaines sociétaux, etc. Enfin, je sais pas, c'est pas du tout ma spécialité. Regardez l'affaire A69, là. Donc, je ne pense pas que le gouvernement aurait fait un projet de loi dit de validation sur la 69, mais il y a un groupe d'élus locaux qui veulent absolument faire cette autoroute et qui ont donc fait une proposition de loi qui, là aussi, va aboutir à sanctifier, enfin peut-être le terme est un peu fort, mais à autoriser la destruction d'espèces protégées, qui annihile l'un des motifs d'annulation par le tribunal administratif de Toulouse, qui avait dit que l'autorisation environnementale n'était pas légale parce que la raison impérative d'intérêt public majeur, toujours cette raison impérative, n'était pas présente. Et la loi dit le contraire. Elle dit si, c'est de... Voilà. Ça pose d'ailleurs un problème constitutionnel éventuel. Mais voilà, c'est, je dirais, en temps normal, si je peux dire, enfin, dans une hypothèse classique d'un gouvernement qui va proposer des PGL et donc les PPL sont assez minoritaires, ça serait manifestement pas passé. Là, à tous les coups, c'est parti, ça va passer. La loi. Bon, une autre loi dont je n'ai pas parlé, c'est la provision de loi Pointereau. Ça aussi, c'est quelque chose d'insupportable, puisque Ce projet de loi vise à donner une dérogation préfectorale qui pourrait annuler les textes sur la continuité écologique dans les rivières. Donc mettre à mort, quelque part, la circulation des poissons migrateurs. Donc le saumon, la lauze, les anguilles, qui sont déjà dans une situation vraiment catastrophique, là, ça serait la fin. Voilà. Plus de saumon en France.
Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
Vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de La Méridienne. Nous sommes avec André Bern pour parler du recul du droit de l'environnement. Et donc, est-ce que ces mesures dont on parlait à l'instant ont des chances, entre guillemets, des chances d'être censurées au Conseil constitutionnel ?
La question est difficile parce que, comme toute juridiction, il est difficile de prévoir à l'avance ce qu'elle pense, d'autant plus que, sans vouloir offenser le Conseil constitutionnel, il n'est pas constitué de juristes. Il y a toujours, comment dire, une dimension politique. Alors, je ne peux pas répondre à cette question. Il y a une jurisprudence du Conseil constitutionnel, par exemple. Sur les lois de validation, parce que je prends l'exemple de la 69. Alors, la 69, c'est une loi de validation. Une loi de validation, c'est une loi que le Parlement prend lorsque il y a des contentieux ou lorsqu'il y a des qui aboutissent sur des impasses. Et donc là, le Parlement, le pouvoir législatif souhaite imposer sa volonté. Alors, il y a eu des jurisprudences dans le passé, et notamment, il y a un gros sujet qui se pose sur la 69, c'est de savoir si l'état de droit est respecté, c'est-à-dire si la séparation des pouvoirs entre le législatif et le judiciaire est respectée. Alors, les jurisprudences anciennes indiquaient que les lois de délégation étaient possibles si une décision n'était pas encore passée en décision définitive, ayant donc la force d'une décision définitive. Alors, sur la 69, la décision n'est pas définitive, puisque il y a eu un appel. Donc, la première instance a considéré que l'acte était illégal et que la raison impérative n'était pas présente. Donc, l'acte, c'est l'autorisation environnementale, était illégale. Donc, ensuite, le gouvernement a fait appel. Et puis, le concessionnaire aussi, je pense. Il y a eu ensuite donc un référé qui a prononcé la suspension de l'exécution de la décision, ce qui permet de rouvrir les travaux. Alors, on lit dans la presse des choses qui sont fausses. Le référé n'a pas autorisé directement la reprise des travaux. Il a simplement suspendu les effets de l'annulation. Et les effets de l'annulation étant suspendus, les travaux peuvent se poursuivre. Donc, là, la décision n'est pas définitive, donc la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne s'applique pas directement. Toutefois, il pourrait quand même décider d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il pourrait quand même décider que, nonobstant, on est proche de la violation des principes fondamentaux de l'état de droit. Bon, ensuite, il y a d'autres possibilités. Il y a le sujet de la conventionnalité, c'est-à-dire des respects. Notamment de la directive Habitat Faune Flore, notamment de son article 6, qui porte justement l'article qui prévoit les raisons impératives d'intérêt public majeur, parce que ce n'est pas une invention française, c'est une règle européenne. D'ailleurs, la loi française reproduit mot pour mot la directive. Voilà, donc il y a un problème de conventionnalité. Alors, c'est un peu difficile à soulever en l'espèce, puisque les requérants n'ont pas directement accès à la Cour de justice de l'Union européenne. Et puis, il y a le sujet de la CEDH aussi, sur lequel pourrait aussi être soulevé par des requérants. Alors là, les requérants individuels ont le droit d'y aller, sur le sujet. Mais bon, la CEDH ne s'occupe pas d'environnement, de manière un peu indirecte. Et là, ça serait attaqué plutôt sur l'article 6, donc le droit au recours effectif. Parce qu'effectivement, à partir du moment où une loi de validation entre en place, il n'y a plus de droit au recours effectif. Mais bon, il y a déjà eu des lois de validation dans le passé, hein, donc celle-là a fait couler beaucoup d'encre, et en tout cas des effets négatifs majeurs sur la question de l'environnement. Toutefois, le mal est déjà fait, ou quasi fait, puisque ces autoroutes, les espèces sont détruites, là.
Je voudrais revenir sur le terme de simplification qu'on a entendu notamment dans la loi de simplification de la vie économique. Est-ce que les normes qui sont en place, les normes écologiques actuellement, sont vraiment contraignantes pour la vie des agriculteurs ou des entreprises? Et est-ce que ces lois proposées vont vraiment simplifier la vie de chacun?
Je pense que c'est assez illusoire en réalité. Alors la simplification, je dirais, c'est la facilitation, on peut dire en agriculture, mais d'un modèle qui, de toute façon, ne tient plus la route. Vu sur la question des ressources en eau, par exemple, c'est évident qu'on va pas pouvoir continuer à irriguer du maïs partout en France. Un maïs, ça consomme 3000 m3 par hectare. Pour une irrigation, c'est juste énorme, quoi. Donc, il faut trouver un autre modèle qui permette d'avoir des plantes plus sobres. Mais derrière, il y a toute une industrie. Toute une industrie, parce que le maïs ne sert plus qu'à nourrir les vaches. Il sert aussi à alimenter la méthanisation. Il sert à alimenter aussi la production de biocarburants. Avec un rendement qui est nul, parce que vous allez planter un maïs, vous allez mettre des engrais, vous allez mettre des produits phytosanitaires, encore, c'est pas top pour la santé. Ensuite, vous allez le couper, vous allez le transporter, vous allez le transformer donc en alcool. Et au bout du compte, entre l'énergie solaire qui tombe sur le sol et ce qui va sortir pour mettre dans les moteurs des voitures, c'est un rendement qui est peut-être de l'ordre de 1 ou 2%. En plus, la photosynthèse a un très très mauvais rendement. Alors que des panneaux photovoltaïques sur 1000 watts qui nous donnent qui sont l'énergie du soleil à l'entrée de la Terre, il va quand même produire 300 watts, donc 30% avec une production directe d'électricité sans passer par un processus industriel. Donc là, il n'y a pas photo. Mais il y a un lobby agricole qui donc souhaite continuer à faire du maïs pour faire soit de la méthanisation, soit de l'alcool pour les carburants. Et tant que ce lobby existe, et tant que les agriculteurs et leurs patrons n'ont pas compris qu'il est vraiment temps de travailler sur un autre modèle agricole qui soit beaucoup plus sobre et moins problématique pour l'environnement, ben on va dans le mur. On va pas non plus couvrir la France. Même déjà en Normandie, il y a déjà des gens qui commencent à dire va peut-être faire des grandes bassines agricoles pour l'agriculture. Et alors les rivières et les gens qui boivent de l'eau, ils ont droit à quoi?
Et donc on a une idée des conséquences sur le long terme que pourrait avoir ce détricotage sur la biodiversité, les habitants, le climat?
Sur le long terme, c'est on va déboucher sur une planète qui sera plus vivable pour les hommes. Il n'y aura plus de biodiversité, la température va augmenter. Voilà. Et puis, il y a des gens qui auront peut-être la chance d'avoir le climatiseur parce qu'ils auront les moyens de les payer avec des consommations électriques énormes. Enfin, voilà. Donc, il faut vraiment... Il y a un côté désespérant, quand même. Voilà, parce que le détricotage de la loi est à raison de la catastrophe écologique. Plus la biodiversité, elle se casse la figure. Hein. Je crois qu'il y a un chiffre qui disait qu'on avait perdu peut-être 60 à 70% des insectes depuis 20 ans. Ben, s'il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux, les oiseaux se nourrissent d'insectes. Puis la chaîne alimentaire, la chaîne écologique. Voilà, donc on fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire.
Dans une tribune publiée dans Le Monde le 26 juin dernier, un collectif de 95 personnalités, dont Antoine Gatté, président de France Nature Environnement, et Inès Leroux, journaliste et autrice des Algues Vertes, faisait un parallèle entre ce détricotage du droit environnemental et ce qui se passe outre-Atlantique. C'est un point de vue que vous partagez?
Oui, alors ça détricote pas mal aussi, outre-Atlantique, puisque... C'est quoi le truc en anglais? Je ne sais même plus comment on dit forêt, drill, baby, etc. Oui, puisqu'ils vont. On est reparti sur l'exploitation du pétrole, l'exploitation du fond des mers. Donc on va maintenant draguer le fond des mers. Donc on va aussi détruire toute la biodiversité. Donc là, c'est un mouvement qui n'est pas que français d'ailleurs, hein, ou qui n'est pas que américain. Donc, en Amérique, ça prend une dimension énorme, mais c'est un peu aussi dans toute l'Europe. Hein. Il n'y a pas beaucoup de pays qui soient raisonnables sur le point de vue, hein, sur cette dimension. Donc, c'est un suicide collectif.
Et on l'a dit, vous êtes vice-président du CREPAN. Vous, en tant qu'association, est-ce que vous avez des recours en cas de... quand des lois comme ça sont votées, est-ce que vous avez des recours et est-ce que la mobilisation actuelle sur notamment la loi du plomb ont des chances d'aboutir vers quelque chose d'un peu plus louable que ce qui se passe en ce moment?
Alors les recours, les associations donc environnementales font des recours locaux. Parce qu'il y a toujours la question de l'intérêt à agir. On ne peut pas faire un recours s'il n'y a pas d'intérêt à agir, s'il n'y a pas de grief. Donc nous, on est plutôt sur les recours locaux. Alors le CREPAN en fait assez peu, mais le CREPAN est fédéré dans une fédération régionale qui s'appelle France Nature Environnement Normandie, qui dispose d'une juriste très compétente, et donc on fait beaucoup de recours. Voilà, moi, en tant qu'avocat, j'en fais aussi, parce que je suis spécialisé dans le droit de l'environnement, donc j'en fais aussi un paquet. Donc, par exemple, on parlait tout à l'heure de la loi APER et des attaques contre l'évaluation environnementale. J'ai déposé pour une association un recours au Conseil d'État contre un acte administratif qui dépend de cette loi et donc dans l'objectif de démontrer son inconventionnalité, sa violation de la directive sur l'évaluation environnementale. Et puis sur du plomb, donc, ou sur d'autres textes, donc il est question effectivement de faire... alors il y aura, ce sera pas le côté associatif, là ça sera un recours a priori par les 60 parlementaires, mais ça va évidemment sortir au niveau du Conseil constitutionnel. Et puis si ça passe, ensuite il y a toujours le sujet de la CEDH, alors le sujet européen est plus complexe comme j'ai dit. Voilà, mais ça, c'est des associations nationales qui font ça. Hein. C'est pas la petite association locale qui va aller en CEDH.
Merci beaucoup, André Berne, d'être venu à notre micro. On le rappelle, vous êtes vice-président du CREPAN, le Comité Régional d'Études pour la Protection et l'Aménagement de la Nature en Normandie, et avocat au barreau de Paris. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
La Méridienne, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Émile à la technique. On se retrouve mercredi prochain. Et en attendant, vous pourrez retrouver Anaëlle demain à 18h pour La Belle Antenne, votre dose d'actualité culturelle. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.